j'ouvre le feu de cette année, qu'on pourrait dire c'est l'année de la femme, et la femme dans tout ça. C'est une recherche importante parce qu'elle engage toute notre recherche de vie en humanité. Alors, homme et femme, on dit des fois il les fit, d'autres disent il le fit, suivant les interprétations. Et là, donc, il le fut ou il les fit pour la réussite de l'humanité. Alors, avant de commencer, je voudrais. Donc, je partirai évidemment du premier chapitre de la Genèse, du premier et du deuxième, puisque c'est là où il y a le récit de la création de l'homme et de la femme. Mais avant d'ouvrir la réflexion sur le chapitre de la Genèse, je voudrais apporter quelques précisions. D'abord, la Genèse, on vient de le dire, a été écrite non pas en premier. Si elle est première dans l'exposition de la Bible, enfin dans la Bible, elle n'est pas le premier livre dans l'ordre de l'écriture. Au contraire, il est venu assez après. Et là, nous avons deux textes dans un même chapitre qui viennent de deux traditions différentes. L'un qui est beaucoup plus récent, du 6e siècle avant le Christ, et l'autre, au moins ce que disent les exégètes, c'est ça, et l'autre beaucoup plus ancien. Alors c'est le récit, justement, des origines du monde, de ce qu'on appelle, d'un grand mot, les cosmologies, l'engendrement du monde. Alors il faut le dire qu'en Israël, c'est un livre qui est venu assez tard, parce que Israël s'occupait peu de cosmologie, des origines du monde. Tandis que les autres peuples avaient déjà fait un tas de récits. D'ailleurs, certains récits qui sont dans la Genèse, du récit de la création, sont pris souvent dans des légendes, des mythologies, des religions de l'époque, babylonienne, assyrienne, babylonienne surtout. C'est normal. Ils ont eu l'idée ensuite en disant, mais nous, est-ce que nous ne pouvons pas reprendre toute notre histoire et essayer de l'éclairer à la lumière du projet de Dieu? C'est pour cela que la Genèse, c'est le fruit qui rassemble la longue expérience d'Israël, l'histoire d'Israël, pour ensuite dire, essayons de découvrir au cœur de ça le projet de Dieu. Vous voyez en quoi il faut d'abord bien partir de là. Alors, c'est pour cela qu'ensuite, on va essayer de l'exprimer. Or, il semble bien, les exégètes disent, que le livre le plus fondamental avant la Genèse, c'était l'Exode. Et que l'expérience de Dieu chez en Israël, n'était pas d'abord l'expérience qui se posait des questions sur les origines du monde. Le Dieu d'Israël est le Dieu dans l'histoire, qui vit l'histoire des hommes. C'est le Dieu de l'Alliance, qui est engagé avec l'homme. Alors, ce qui est fondamental, c'est que l'expérience de Dieu est avant tout en Israël une expérience libératrice. C'est l'expérience de l'Exode. Le papa hébreu ne commençait pas par dire « Regardez le ciel et la terre, c'est Dieu qui l'a fait. » Il disait plutôt « Nous étions esclaves en Égypte et Dieu nous a rendu libres. » C'était la grande mémoire que l'on rappelait au peuple d'Israël. Dieu nous a rendu libres, mais il faut encore le préciser, parce que cette mémoire c'est important. Dieu nous a fait nous libérer. C'est Dieu qui nous a mis en route pour que nous nous libérions, il est avec nous. D'accord, c'est que Dieu envoie Moïse. Et en envoyant Moïse, il nous sauvait du passage. Il y a Dieu qui se met en colère un peu à la fin, parce que Moïse, il ne peut pas y aller. Qui suis-je, moi, pour aller devant le Pharaon? Mais là, c'était l'expérience fondamentale. Et que l'expérience de la Genèse, si on regarde de près, est une expérience justement qui reprend tout le projet libérateur de Dieu dans l'humanité. Et que ce projet est au cœur de la création. Je pense que mes frères juifs le savent, il y a des commentaires rabbiniques et des midrashs qui disent bien que Dieu a créé le monde pour la Torah, c'est-à-dire pour la libération de l'homme, hein, pour la loi de liberté. Alors, je crois que c'est important qu'on se dise cela. Ensuite, il est important qu'on se dise que quand on dit le commencement, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, de quel commencement s'agit-il? Est-ce que c'est le commencement historique, le monde a commencé là? Ou est-ce que c'est le commencement de la source? La source est l'éternel commencement du fleuve. S'il n'y a pas de source, il n'y a plus de fleuve. Alors la source est le commencement du fleuve, mais il est toujours actuel. C'est un commencement actuel. Quand on regarde le fleuve, il y a toujours son commencement. Ce qui veut dire qu'il y a toujours l'action de Dieu au cœur du monde. Et que l'acte créateur de Dieu n'est pas un acte du passé, c'est un acte qui est continuel. Hein? Dieu, on dit, il a créé, moi je préfère dire, il crée le monde. Nous sommes dans l'acte créateur de Dieu. Saint Paul le rappelait aux Athéniens, vous vous souvenez, dans les Actes des Apôtres, s'adressant aux Athéniens, il leur disait, notre Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, c'est le Dieu en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc c'est le Dieu qui est au cœur de l'histoire, qui est la source de la vie, donc aller parler du commencement dans la Bible, c'est aller à la source, à cette source qui est toujours actuelle. Ensuite, ce que je voudrais insister aussi, c'est que le langage biblique est un langage mythique. Et ça ne peut pas faire autrement. C'est ni un langage scientifique, ni un langage sociologique. Un langage mythique parce que on va au fond des choses. On ne peut pas l'exprimer par des équations mathématiques ou par des expressions scientifiques. D'ailleurs, si on l'avait exprimé par des expressions scientifiques, on ne parlerait pas de la Bible maintenant, des siècles après. C'est parce qu'il y a ce langage mythique. Mais mythique, ça ne veut pas dire irréel, attention. Hein. Mythique, ça veut dire que ça dépasse notre mode d'expression. On va chercher des modes d'expression qui vont rejoindre le fond de l'homme, l'histoire de l'homme, la conception profonde de l'homme. Voilà. Donc ça, c'est... Il faut bien qu'on s'en sorte. Là, quand on va parler maintenant d'Adam et Ève, je crois qu'on est tous d'accord, il n'y a jamais eu de Monsieur Adam et de Madame Ève. Hein? Vous comprenez? C'est pas l'histoire des débuts de l'humanité. L'histoire de l'homme, premier homme, c'est la science à chercher. Vous comprenez? Hein? C'est pas la Bible qui vient nous le dire. D'ailleurs, là, il y a un lien très profond entre la foi et la science. D'ailleurs, dans la Bible, la science tient une place aussi, on tient une place à tous ceux qui cherchent. Hein. Et que je dirais même, plus on a la foi, plus on s'ouvre à la science. Mais la foi, c'est entrer dans la profondeur de Dieu et ce que Dieu est, ce que l'homme est, et je vais en recherche, et ça je ne peux l'exprimer que pendant un langage. Et ce langage mythique, ben, nous donne une très grande richesse. D'ailleurs, toute la Bible est faite de ça. Hein? Le langage mythique du feu, de l'eau, mais l'eau c'est énorme ça, hein? Les grandes eaux, etc. Donc ça met en face de ce langage. Et ça, c'est un langage extrêmement riche qu'on n'a jamais fini d'approfondir. Voilà comment Dieu vient à nous. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que ces passages, la Bible, est toujours objet d'interprétation. L'homme est fait pour interpréter. Et Dieu le veut comme ça. Donc, la parole de Dieu, l'Écriture, n'est pas une lettre qui nous tombe dessus, elle est à découvrir dans la conversion du cœur. C'est pour cela que les approches de l'écriture sont différentes. Je disais là, quelqu'un qui citait le Talmud, c'est le père Renaud, je crois. Voilà. Mais il ne m'a pas donné les indications, il y a des talmudistes ici. Hein. Qui disait que dans le Talmud, on dit les rabbins ont des interprétations différentes et même contradictoires. Beaucoup, il y en a qu'à voir. Hein. Même sur ce chapitre-là, la manière dont on voit la femme et dont on interprète des textes sur la femme dépend beaucoup des civilisations ou des cultures que l'on vit à une certaine époque. Mais nous sommes tous comme ça. Hein, nous vivons tous notre foi dans une culture. Et ça, il faut en prendre conscience. Nous ne vivons jamais la foi à l'état pur. Hein. Dans le Talmud, on dit, alors, avec toutes ces grandes interprétations, et ces multitudes d'interprétations, même contradictoires, quelle est la vraie? Quelles sont les vraies? Et le Talmud répond, toutes. Parce que justement, le mystère de Dieu est tellement riche, tellement divers, qu'il faut entrer en acceptant cela. Parce que la parole de Dieu, souvenez-vous du texte du Deutéronome, qui disait, la parole de Dieu, tu montes au ciel pour la trouver, tu n'y es pas. Tu vas au-delà des mers pour la trouver, tu ne la trouveras pas. Tu vas au fond des abîmes pour la trouver. Elle est où alors cette parole? Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Et donc, cette parole de Dieu n'est pas un enseignement venu d'en haut, hein, c'est l'enseignement de Dieu, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui vient à nous, et qui sont des rapports, pas d'élève à maître, mais d'amis et amis. Souvenez-vous, Abraham, il parlait à Dieu comme un ami et un ami. Hein. Et pour nous, chrétiens, Jésus nous dit bien, vous ne s'appellerez plus serviteur, mais ami. Hein. C'est-à-dire, vous pénétrez les rapports disciples et maîtres, ce ne sont pas des rapports d'enseignants à enseigner, c'est des rapports de profondeur. Hein. Dieu agit, Dieu voit le cœur, Dieu agit dans le cœur. C'est pour cela que l'écriture commence par ce mot, écoute. Écoute pour que cette parole te pénètre bien. Je suis toujours frappé comment dans l'évangile, Jésus ne dit pas bienheureux ceux qui écoutent la parole, ceux qui mettent en pratique la parole. Bien sûr qu'on le met en pratique, mais il commence à dire, bienheureux ceux qui écoutent, hein, la mettent en pratique. Parce qu'on ne la met pas en pratique comme un commandement. Hein. On la met en pratique dans la découverte de ma liberté et ma responsabilité. Alors c'est pour cela que l'interprétation diverse, c'est la confiance en Dieu qui nous fait à tous dans notre liberté et notre responsabilité, avec notre propre histoire. Et ça continue, ça. Vous comprenez? Hein, si je peux parler élargir ici, mais dans l'Église, un certain nombre de choses ont été dites très marquées par la culture de l'époque. Même, je vois la première encyclique sociale de Léon XIII, il y a quelques passages que je n'oserais plus lire maintenant, parce que c'était marqué par l'opinion de l'époque. Alors là, ça nous oblige à écouter la parole. C'est aussi prendre compte, en compte ma culture, et comme là aussi. Il est vrai que Malraux disait, il est difficile à un poisson de se rendre compte de son bocal. On est tous, hein, tous pris dans un bocal, donc il faut se rendre compte. Mais c'est cela, et au contraire, la foi, l'écriture nous ouvre et nous restitue à nous-mêmes, hein, dans notre humanité. Je crois que je dis ça parce que c'est le point de départ qui me paraît important dans ces textes qui sont quand même mythiques dans leur expression, mais qui veulent exprimer l'inexprimable qui est dans l'histoire de l'homme et qui est en Dieu. Ensuite, un troisième aspect aussi, avant d'aborder le sujet, c'est que nous devons avoir en tête que Dieu n'a pas fait une création achevée. C'est sans doute la peine. Parce que on est tous marqués par le schéma du Dieu grand architecte. Or, la création n'est pas achevée. Elle est en achèvement. Mais tu fais appel à l'homme, tu sais, pour achever, et qu'il achève, on achève ensemble. Et pour que, en achevant la création, ce n'est pas d'achever la création, parce que ça voudrait dire que Dieu donne la création à l'homme, ça c'est mon domaine, tu vas travailler pour moi, pour la création, non ? C'est que l'homme s'achève en achevant la création. C'est cela qui est important. Mais il ne peut pas s'achever s'il n'achève pas la création. C'est ce lien profond entre la création et l'homme. Ça c'est le projet. Et puis il ne faut pas oublier que lorsque ces chapitres de la Genèse ont été écrits, il y avait bien le peuple de l'Alliance, hein, qui faisait l'expérience de Dieu engagé avec lui, dans toute sa vie. Et que la première image de l'Alliance de Dieu avec son peuple, dans la Bible, la première image, c'est l'image de l'époux et de l'épouse. La métaphore, hein, c'est ça. Dieu est l'époux d'Israël. Ça se dit souvent. Et que ce sera une belle histoire d'épousailles entre Dieu et le peuple, mais en même temps, ces épousailles avec l'humanité, parce que l'alliance est avec l'humanité, souvenez-vous, avec Abraham. Alors, ensuite, ces métaphores vont évoluer, parce que on va passer du Dieu époux au Dieu mère. Et on en parlera, hein, c'est prévu dans nos programmes. Parce que c'est toujours l'histoire d'un époux toujours fidèle, mais d'une épouse qui est infidèle, qui va vers les idoles, etc. Hein, qui se tourne. C'est pas facile d'appeler les gens à la liberté. Hein, et les gens n'acceptent pas forcément leur liberté. On préfère rester là où l'on est que se mettre en marche. C'est la longue marche dans le désert qui était la marche vers la liberté, la construction de la liberté. On va vers une terre promise où rentrent des hommes libres et non pas des hommes esclaves. Et l'alliance a passé par une libération. Parce que Dieu n'a pas voulu faire alliance avec les hommes esclaves, mais avec des hommes libres. Mais la libération n'est pas la liberté encore. Combien de libérations ont conduit les gens à d'autres asservissements, et l'histoire nous le montre bien. Hein? C'est pour cela qu'il y a le désert. Les 40 ans du désert, c'est la maturité de la liberté. Où là, ils vivent dans un déconditionnement, hein, par rapport aux civilisations, et donc ils vivent ce déconditionnement pour construire leur propre liberté. Et donc ils découvrent Dieu engagé avec lui. Alors nous sommes devant une création qui est inachevé et qui est toujours à achever, mais qui ne peut s'achever qu'avec Dieu, mais Dieu qui nous appelle à l'achever avec lui comme des êtres libres et responsables. On ne peut pas l'achever sans être libre et responsable. Et cette création, c'est l'achèvement de l'homme. C'est pour ça que le titre ici, c'est la réussite de l'humanité. Alors, il faut dire aussi que cette création est importante parce qu'elle commence, Dieu créa le ciel et la terre. Et que cette création, c'est quoi? C'est sortir le monde du chaos. C'est le chaos qui est au point de départ, le tohu, la boue. C'est ça. Et donc, c'est les grandes eaux, le mythe des grandes eaux qui sont le chaos. Et si vous regardez la création, c'est une libération du chaos. La libération des grandes eaux, avec les images de l'époque, hein, Dieu souffle, son grand souffle, il y a des eaux qui vont haut, qui sont derrière le firmament, c'est des cosmographies d'époque, hein, la géologie d'époque. Puis il y a les eaux d'en bas, ils soufflent, ça laisse des terres vides, et voilà. Et c'est là, donc, si vous voulez, c'est déjà la grande entreprise, cette création de désacralisation du ciel, des étoiles et des astres. Il ne faut jamais oublier que la Bible est une vaste entreprise de désacralisation. Hein? On était dans un monde sacral. Et un monde sacral qui met l'homme dépendant d'un destin, d'une fatalité. Les astres c'était la fatalité. Hein? Il y avait le destin inscrit dans les astres. Hein? Le soleil, c'était la fatalité des astres. Hein? Et voilà que la création vient dire tout ça, c'est Dieu qui l'a fait. C'est rien du tout, ça. C'est pas sacré. Hein? Et que le firmament, c'était conçu comme une voûte solide. Hein? Bon, il n'y avait pas d'ampoule comme ça à l'époque. Hein? Mais je veux dire, les étoiles, c'est des petites lumières que Dieu a mis là-haut. Donc c'est bien qu'on soit bien clair que quand on dit créateur du ciel et de la terre pour nous, mais dit en ce temps-là, c'était un véritable changement profond des choses. Hein. Un changement profond de désacralisation qui rend l'homme esclave du destin et comme des races à peuple des éléments de ce monde. Voilà. Alors ça, c'est un point. D'ailleurs, il y a un passage qui est très typique que vous connaissez. C'est celui de Josué qui rentre en terre de Canaan. Canaan, vous vous souvenez, la victoire, il est en train de porter la victoire. Il gagne, puis il y a la belle nuit qui tombe. Donc si on laisse tomber la nuit, les autres, ils vont refaire leur force. Hein. On est pas sûr de gagner demain. Alors là, Josué, il arrête le soleil dans sa course. C'est ce qui a fait condamner Galilée, d'ailleurs. Parce que Galilée disait, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Et là-bas, le Saint-Office de l'époque va dire, mais non, regardez dans la Bible, il arrêta le soleil dans sa course. Bon, c'est le soleil qui tourne. Mais c'est un rabbin qui va expliquer le sens, qui est très profond. Il a dit, c'est une signification profonde, parce qu'il montre que l'homme est supérieur à l'astre. Que l'homme n'est pas soumis à un destin. Que l'homme doit construire sa vie dans le réalisme de ce qu'il est, bien sûr. Hein. Il y a un tas de choses qu'on ne choisit pas. Mais c'est à partir de là que l'on construit sa liberté et sa responsabilité. Mais ça, c'est difficile encore. Vous n'avez pas de revue sans des horoscopes, hein, encore à l'heure actuelle. Donc ça fait partie un peu du besoin de l'homme. C'est le besoin de sécurité, et que appelé à la liberté et la responsabilité, ça ne se fait pas comme ça. Voilà donc l'entrée. Alors ensuite, quand Dieu, là je passe par-dessus la création, pour faire les 7 jours, d'ailleurs, on s'est servi des jours de la semaine, le juif, hein, des jours, et là, avec le 7e jour, le Shabbat. Le 7e jour, quel jour du repos, quel jour de la libération aussi, hein, d'Égypte. Donc, qui est le jour où l'homme atteint sa profonde liberté. Mais je prends le temps de développer tout cela, ça serait riche à travailler, ça. Parce que, quand on dit que Dieu se reposa, que s'entend, hein, les choses sont repos, Dieu, mais c'est un repos pour mon fils, ça veut dire qu'il se retira, pour laisser la place à l'homme et qu'il travaille. Voilà. Pour laisser la place à la responsabilité de l'homme. Alors là, nous voyons que Dieu, eh bien, fait l'homme à son image et ressemblance. Alors, dans ce récit de la création, le Dieu, tous les. Quand il crée les autres, hein, il crée le ciel, la lune, les étoiles, les animaux, il dit, Dieu dit, voilà, que la lumière soit, etc. Quand il arrive à l'homme, il s'arrête. Puis il va dire, faisons l'homme à notre image et ressemblance. Et c'est pas pour rien que dans le récit, il y a la parole qui dit, et puis, il y a la parole, ensuite, aux autres, il n'adresse pas la parole, mais là, il réfléchit. Hein. Alors là, il y a eu beaucoup d'interprétations, je ne passe pas, par les rabbins, tout ça. Bien, je pense qu'il y a une interprétation qui me paraît très intéressante, que ça veut dire que maintenant, faisons l'homme à notre propre image et ressemblance. Alors, certains ont dit, c'est parce qu'il fallait que les anges sont intervenus, pour dire Tu veux faire l'homme comme un autre Dieu, etc. Hein, voilà. En effet, il y a certaines traductions, parce qu'ils disent, s'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors hein, comment voilà. Alors il y a une autre traduction, j'ai lu dans José Eisenberg, qui dit, il le fit selon son moule, l'homme, hein, selon le moule de l'homme, que Dieu l'a fait. Et là, donc, il y a un moule pour chaque homme. C'est qu'il ne l'appelle pas en série, il appelle chacun selon sa propre personnalité. Mais il y a une autre interprétation qui me paraît intéressante, qui dit, c'est parce que Dieu rentre en dialogue avec l'homme. Et il crée l'homme en dialoguant avec lui. Et que dans la création de l'homme, il ne le crée pas comme un objet, il le crée dans une relation. Et dans cette relation, c'est donc ce dialogue de Dieu avec l'homme et l'homme avec Dieu que l'homme se construit. Voilà, l'Adam. Alors, cet Adam, ben, il le fait responsable. C'est-à-dire, il lui fait porter le nom à tous les animaux, ce qui veut dire qu'il est responsable, hein, qu'il est le maître de cette création. Et puis ensuite, il appelle l'homme à cette responsabilité de la création. Voilà qu'est-ce qu'on voit. On voit que dans cette responsabilité de la création, ben, l'homme ne peut pas être un individu seul. Alors là, on a différentes interprétations. Hein. Est-ce qu'il y a Adam, l'homme seul? Ou d'autres pensent que d'autres rabbins et d'autres interprétations, que c'est des presque androgynes. Hein. C'est l'Adam, c'est pas Adam. La personne, c'est l'Adam, c'est l'être humain. Hein. Et que cet être humain, il est seul comme cela, ne se réalise pas, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors cela, ça ne le satisfait pas. Alors, il faut que lui donne une aide semblable à lui. Et cela, voilà, voilà que l'Adam va devenir homme-femme, suivant les interprétations qu'on fait. Hein. Est-ce qu'il y a Adam, homme d'un côté et puis la femme de l'autre, ou est-ce que c'est l'Adam qui ensuite devient homme et femme? Voilà. Ça, c'est des interprétations de l'androgynie, hein, c'est ça. Ah, mais ce qui est important là-dedans, c'est que l'homme est fait pour la relation. C'est que la personne humaine se construit dans la relation. Ça, c'est essentiel. Et encore à l'heure actuelle, nous nous rendons compte hein, qu'un enfant ne peut devenir pleinement lui-même, prendre conscience de sa personne, mais dans la relation. Il n'y a un « je peux conscience de mon « je » » que parce qu'il y a un « tu ». Tous ceux qui font de la psychologie le savent, etc. Puis ça, c'était toute la philosophie personnaliste de ces dernières années. C'est-à-dire que l'homme se construit dans la relation. Je ne peux dire « je » que parce qu'il y a un « tu » en face. C'est le « tu » de sa mère, d'abord, qui lui permet de prendre conscience de sa responsabilité. Alors au fond, la création de la femme, ça nous ouvre un certain nombre de réflexions. Une des premières, il me semble qu'il semble important, c'est qu'en effet, la femme est relation avec l'homme et que l'homme et la femme existent et se construisent dans cette relation. Cette relation est une relation constructive. Et elle sera l'image aussi de la construction de l'humanité qui ne pourra se faire que dans une relation. Voilà. Alors, là aussi, il y a le problème, c'est que ce qui est sous-jacent, et là ça nous surprend peut-être, mais il est important de le dire, c'est qu'à l'époque, il y avait d'une part, bien sûr, signifié que la femme est égale de l'homme, qu'elle est comme l'homme, etc. Et, j'expliquerai tout à l'heure sa création. Mais d'autre part aussi, il y avait le souci d'une démythologisation de la femme. Parce que la femme était mise dans la sphère des déesses, dans la sphère des... Hein, il y avait un mystère de la femme. ne serait-ce que le mystère de la maternité n'était pas tellement pour eux quelque chose, c'est-à-dire que la femme porte en elle une puissance, elle fait partie d'une autre sphère. L'importance des déesses, il y en a dans toutes les mythologies. Hein. Alors, il fallait déjà, dans ce récit, le dire non. La femme est de la même nature que l'homme. Elle fait partie de l'humanité. Elle ne fait pas partie d'un autre monde. Et c'était la, tout le récit qui va venir par la suite de la création de la femme. Alors là, ce qui va ressortir dans cette création, c'est que Dieu confie à Adam, homme et femme, la responsabilité. Ils vivent une co-responsabilité. C'est important le mot, là. Parce que là, alors, on a des traductions un peu diverses. J'en ai trouvé un peu qui ne sont pas faciles à traduire. C'est que les uns disent bon, co-responsabilité, d'autres ont traduit auxiliaire de l'homme, une aide semblable à lui. Vous comprenez, ça nous pose une question, ça. Est-ce que la femme est seulement là pour aider l'homme? Voilà. Et là, j'ai trouvé une interprétation du père Gerbe de Lau, je crois qu'il a travaillé avec lui. Je ne sais pas, il a pris lui, il l'a pris en permanence. Il dit, lui, il va très loin, il dit, il faut que je lui donne une aide comme son encontre. Pour bien signifier que il n'est pas là pour aider, elle n'est pas là simplement pour aider l'homme, mais qu'elle apporte autre chose. Et que cette unité se construit dans la diversité. Et qu'elle se construit dans une co-responsabilité qui exige échange et transformation des mentalités. Alors voilà, on va l'être la femme. Alors là, les images du Dieu créateur, on va aller dans le domaine de l'artisanat. D'abord, dans l'artisanat, c'est que Dieu, dans le premier récit, est comparé à un potier. L'image du Dieu potier existe beaucoup dans la Bible. Puisque même l'histoire de Jérémie dira, comme l'argile dans les mains du potier, je suis façonné par Dieu. Voilà. Et saint Paul dira, est-ce que le potier va demander rendre compte, plutôt le pot, alors va demander rendre compte au potier qu'il a fait. Mais je pense que l'image était faite, d'ailleurs à l'époque on donnait beaucoup d'importance à l'artisan. Il ne faut jamais oublier que la sagesse biblique, c'est la sagesse de l'artisan, pas de l'intellectuel. Donc, c'était pour donner, il a façonné l'homme avec la même passion qu'un artisan, qu'un potier, construire son vase. Puis à l'autre image, alors, après, ben, ça va être le dieu, excuse Jean-Marc, anesthésiste chez Bourgia. Puisque là, il va d'abord mettre Adam dans la torpeur, voilà. Puis ensuite, ben, il va ouvrir Adam, sortir la côte, les indices l'autre côté, ça sent plus vrai le côté, j'en sais rien, voilà. Et que là, la femme, donc, est sortie de la coupe. Le chirurgien est très bon parce qu'il a refermé très bien. Après, on ne sent plus compte qu'il y a eu l'opération. Si bien que la femme ne pourra pas dire, il y a la trace que j'ai de toi. Alors, mais l'image est très belle. Parce que, d'abord, il est mis dans la torpeur, dans le sommeil. Vous savez, le sommeil qui a une place importante dans la Bible. Parce que durant le sommeil, ça veut dire l'action de Dieu qui travaille pendant que nous ne rendons pas compte. Alors, tu vois, Dieu travaille, nous n'en sommes pas conscients. Nous sommes toujours dans le sommeil. Et c'est le sommeil que les actions de Dieu dépassent l'homme, et donc que Dieu agit sans que l'homme s'en rende compte. Il y a une parabole, d'ailleurs, dans l'Évangile qui dit « Le royaume de Dieu est semblable à la semence que je tiens en terre. Que tu dormes ou que tu travailles, la semence va croître, va donner des pies, etc. » Donc ça veut dire l'action de Dieu. Mais là, ce qui ressort, le sommeil, c'est important. Parce que Adam se réveille et il voit Ève. Il ne l'a pas vu naître dans la Bible. il n'a pas dû mettre, c'est bien que Adam n'a pas dû mettre Ève, et Ève n'a pas dû mettre Adam dans le récit. Ce qui veut dire que on accueille Dieu. On est appelé à s'accueillir l'un l'autre comme don de Dieu. Et comme don de Dieu, pour construire justement cette humanité, cette responsabilité à laquelle Dieu nous apporte. Alors là, tout de suite après ça, on va dire, et là c'est une phrase très importante pour moi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux, je préfère l'expression ne deviendront qu'un. Le devenir, c'est le devenir. Hein? Parce que l'homme va entrer, l'homme et la femme ensemble, dans l'achèvement de la création. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu qui aime le tout fait. Hein? Dans la Bible, c'est le Dieu qui aime le se faisant. Hein? Ce qui est en train de se construire, ce qui est en train de se faire. Ce qui est toujours en train de se créer. La forme de Dieu, c'est l'esprit de création. Pour nous chrétiens, l'Esprit Saint, c'est l'esprit créateur. Hein? C'est ça. Et que l'amour est toujours créateur. Alors, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous rendez compte cette phrase écrite à cette période. On était dans un monde patriarcal. C'était la femme qui allait chez l'homme. Hein? Et là, on s'aperçoit que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère et s'attachant à sa femme, et tous deux ne feront qu'un. D'ailleurs, c'est une phrase qui tient beaucoup de place quand je prépare des mariages. Les jeunes aiment beaucoup cette phrase, hein, parce que je dis toujours, vous n'êtes pas à la reproduction de quelque chose. On doit beaucoup à ses parents, tout ce qu'on doit, bien sûr, il ne faut jamais oublier que c'est le passé, hein, qui nous a formés, ce que nous sommes maintenant, c'est grâce à eux. Mais ce qui va se faire là, c'est une nouvelle création. C'est que votre amour est mis à vous. C'est que votre amour vous engage, vous, et que vous. Et c'est vous qui devenez maintenant dans votre liberté responsable, hein, d'une création nouvelle. Et que chaque être qui s'aime, c'est un monde nouveau qui naît. Comme chaque enfant qui naît, d'ailleurs, c'est un monde nouveau qui naît. Donc là, c'est un. Ça veut dire que la création va se faire justement dans cette communion de vivant. Communion. Et communion, soyons bien clairs. La racine du mot communion, ça ne veut pas dire commune, union. Ça veut dire communus, tâche commune, responsabilité commune, la commune. En latin, communus. Hein? Nous sommes engagés vers une tâche commune. Saint-Exupéry disait, c'est une phrase qu'on a connaît très bien, hein, s'aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Donc c'est s'aimer, c'est entrer dans un projet commun que nous sommes appelés à vivre. Mais communion, c'est le contraire de la fusion. Hein. C'est pour ça que l'autre traduisait à son encontre, hein, pour éviter la fusion. Parce que la fusion, l'autre est absorbé et n'existe plus. Hein? La communion, c'est le lien commun dans une commune responsabilité. Voilà. Alors, donc, c'est très beau de dire que l'homme et la femme, même nature, d'ailleurs, en hébreu, hein, il y a ish et isha, hein, c'est ça. Ça veut dire que c'est la seule langue hébraïque qui donne les mêmes racines à l'homme et à la femme. Donc c'est la même racine, la même nature, donc c'est cette égalité fondamentale de l'homme et de la femme. Donc je continue encore un peu. Alors là, il y a un autre projet de Dieu. Là, il va les placer, ça va être très bien dans le jardin d'Éden, on découvre, hein. On le décrit même ce jardin avec les ruisseaux, etc., les rivières, les fleurs. Alors, le jardin d'Éden, ben, vous êtes bien d'accord avec moi, il n'y a jamais eu de jardin d'Éden. Il n'y a jamais eu de paradis perdu. Hein? Le jardin d'Éden, ça veut dire le projet de Dieu de faire cette humanité qui s'accomplisse. Hein? C'est le projet dont on parlera plus tard, le prophète Isaïe et tous les prophètes, qui diront, les épées chargeront, se transformeront en sortes de charrues, etc., le loup et l'agneau iront par tourage ensemble, etc. C'est-à-dire, c'est la vision d'un monde qui doit aller vers son achèvement. Alors c'est l'appel à construire, c'est-à-dire à construire l'humanité. Parce que souvent, dans l'évangile et dans la lutte, c'est comme cela. Hein. Prenez un exemple, on voit dans les actes des apôtres, les premiers chrétiens avaient un seul cœur et une seule âme. Puis quelques versets après, c'est le verset, la fin du verset 4, début du verset 5, on a l'épisode d'Ananie et Saphir. Seul cœur et une seule âme, mettaient tout leur bien commun, puis eux, ils avaient mis de côté leur argent, hein, ils avaient fait semblant de donner le bien aux autres, mais ils avaient de l'argent à côté, alors d'un côté ils profitaient de la communauté, puis de l'autre ils avaient leur cagnotte. Et pourtant on dit, les premiers chrétiens n'avaient qu'un seul cœur et une seule âme. Non, ça veut dire, ils sont appelés à avoir un seul cœur et une seule âme. C'est le projet. Hein. Le jardin d'Éden, c'est le projet de Dieu. C'est que cette humanité réussisse et aille vers sa pleine réalisation. Alors, là, l'homme, donc, et la femme rentrent dans ce projet qui est toujours actuel, qui est justement la responsabilité de cette création, de ce monde, de cette humanité, qui est toujours à construire. Et voilà, le jardin d'Éden, vous savez, il y a le fruit défendu, hein, c'est très important ça. Parce qu'on ne peut se construire et construire ce monde que dans une liberté et une responsabilité. Or, que dit Dieu ? Il a donné du pouvoir à l'homme. Oui, tu peux manger tout. Il ne faut pas tout manger, parce que tu manges tout, il ne restera plus rien. Oui, hein. L'homme est l'arbre du bien et du mal. Mais l'arbre du bien et du mal, ça veut dire cette tentation continuelle de l'homme, d'abord de ne pas accepter sa condition d'homme, de ne pas assumer hein, sa condition d'homme, qu'on peut construire sa liberté qu'à partir de sa condition d'homme, et non pas dans le rêve idéologique d'un autre monde, que l'homme doit vivre sa responsabilité, et sa responsabilité dans la liberté, que la liberté est toujours liée à la responsabilité. Il y a une liberté qui n'est pas liée à la responsabilité, c'est une fausse liberté. Nous avons fait ici, il y a quelques années, je vous en ai fait, je crois, une réflexion sur les illusions de la liberté. Et là, c'est très important. C'est-à-dire, on s'engage dans une humanité où on est responsable, dans laquelle on prend la mesure des choses et la mesure du temps. Le danger, c'est l'immédiateté. L'idéologie, c'est l'immédiateté. On voudrait que ce soit tout fait tout de suite. Et l'immédiateté ne laisse pas l'homme le temps de réfléchir, d'approfondir et de faire les choses en responsabilité consciente. Or, le serpent qui tente, c'est quoi ? C'est justement de dire, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, vous sortirez de votre condition humaine. Vous trouverez la solution à tout. Hein ? C'est le Dieu qui donne les solutions. Les idoles, c'est ça. Et là, je pense que, historiquement, ça devait être les tentations avec les païens, enfin, tous les gros monos autour, qui étaient la Syrie, la Babylonie, la Chaldée, etc., qui occupaient la Palestine où ils étaient en exil, hein, c'est toujours la tentation de l'homme de vivre l'immédiateté, de ne pas vivre le nourrissement des choses. D'ailleurs, l'arbre, on pourrait faire aussi des autres interprétations, il y a beaucoup de sens de l'arbre dans la Bible, hein, on en parle beaucoup, et c'est le lieu aussi où on étudiait la Torah, le figuier, c'était le lieu où on était. Je l'ai reconnu ce figuier, c'est un vrai enfant d'Israël, celui-là. Ça veut dire le lieu de l'étude, de l'écoute, etc. Tandis que là, au lieu d'être le lieu du nourrissement du lieu et de l'écoute, on attend la solution immédiate qui correspond à mon désir. Mais mon désir, ce n'est pas ma liberté. Parce qu'il n'y a pas. On ne peut pas vivre sans désir, il faut toujours convertir son désir en liberté. c'est-à-dire tenir compte de la réalité présente dans laquelle on se trouve. Alors, mais là, je ne veux pas trop retarder parce que je voudrais donc dire que l'immédiateté, c'est pas laisser du temps au temps, le temps de la croissance de la vie, hein, c'est vouloir les choses sans médiation, c'est encore là, c'est vouloir que Dieu intervienne sans ma responsabilité et, les médiations humaines, hein. C'est un Dieu qui agit d'en haut directement sur moi, mais qui ne construit pas comme homme dans ma liberté et ma responsabilité, alors que le Dieu de la Bible est toujours en train de construire l'homme dans sa liberté et responsabilité. Hein? Il l'a fait se libérer d'Égypte. Hein? Alors, c'est passer à côté du temps de la croissance et de la vie collective. Voilà. C'est de conduire à l'irresponsabilité. Alors, je termine en disant que, enfin, par deux choses. C'est que tout se termine dans l'espérance. Il y a une phrase qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Dieu dit dans ce passage, parlant au serpent, j'en ai pas parlé beaucoup, mais ce n'est pas la peine d'en parler, il dit au serpent, on n'y pense pas assez à ça, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Toi, tu la mordras au talon, tu la blesseras, mais elle t'écrasera la tête. Ça veut dire que tu feras du mal à l'humanité, mais c'est l'humanité qui vaincra. C'est la lignée de la femme qui vaincra. Hein? Mais quand on écrase la tête, c'est la mort, on est vainqueur. Voilà. Ça veut dire que l'humanité sortira victorieuse. Et que l'histoire maintenant, celui qui est croyant, chrétien ou juif, celui qui est croyant sait qu'il y a le combat de la vie, mais dans ce combat, il y a la certitude de la victoire que nous menons maintenant, et c'est ça notre espérance. Non pas une, justement, l'espérance, soit juive, soit chrétienne, est une espérance qui nous conduit à combattre pour le monde. Et plus nous avons l'espérance de Dieu en nous, plus nous combattons pour la justice et pour l'homme. Parce que c'est lié au projet de Dieu qui est au cœur de ma vie. Alors, en effet, cette espérance, ben, elle va l'être. Je passe très vite. Elle va l'être parce que elle, dans sa descendance, ben, il n'y aura qu'un. Et qu'un, c'est celui qui engendre la civilisation du meurtre. Et que Abel n'existe plus. Hein? Et tu es. Il reste Caïn. Et si vous lisez la Bible, la descendance de Caïn, c'est la descendance de la civilisation. C'est lui qui construit la ville, les descendants de Caïn. C'est eux qui font les forges, qui battent Caïn. Et même là, hein, puisqu'il y a. On voit même donc que toute la civilisation est là. Mais ça, c'est la civilisation qui prend sa source dans le ventre, dans l'élimination de l'autre. Alors, c'est là où Ève va demander un autre enfant. Et là, elle va mettre Seth, le troisième enfant d'Ève. Et de Seth, ben, ça va être une nouvelle descendance. De Seth, ça va être la descendance qui va s'engager dans la. Dans l'avenir de l'humanité, hein, puisque Noé sera descendant de Seth et Abraham, etc. Vous voyez, la Bible est très liée, ça vous montre que il y a cette descendance de la promesse de Dieu s'accomplit, et qu'elle s'accomplit d'ailleurs contre toute attente humaine. Vous n'avez pas remarqué que les trois patriarches qui sont les fondateurs du peuple hébreu, celui, Abraham, à qui Dieu avait dit tu auras une grande nation, etc. Tous les trois avaient des femmes stériles, incapables d'enfanter. Sarah avec Abraham, Rebecca avec Isaac, et Rachel avec Jacob. Vous voyez l'avenir ? Il va se faire. Il va se faire envers et contre tout. Là où tu pensais où la vie sera impossible, Dieu le fera possible. Voilà l'espérance que donne ce récit de la création. La création est faite dans l'espérance de Dieu. Dans l'espérance de Dieu que Dieu meurt là, d'ailleurs toute la Bible nous remonte que Dieu met beaucoup plus d'espérance en l'homme que l'homme ne met d'espérance en Dieu. Et que cette création va vers son achèvement, et ça fait notre confiance et notre chemin ensemble. Alors, j'allais dire aussi que ce récit, c'est un récit qui nous conduit à une véritable humanisation de nos vies, dans notre vie avec Dieu. C'est Père Marion qui disait « Dieu ne divinise que ce que l'homme humanise ». Il faut humaniser. Et là, je termine par Elie Wiesel. Il a fait un livre « Espérer envers et contre tout ». Ça va bien dans la ligne de ce que je viens de dire. C'est un échange avec Joël Baptiste Metz et lui. Donc, Elie Wiesel, et là, je termine par ce qu'il écrit. Pardon, excusez-moi, je cherche. C'est pour cette raison, il explique un peu avant, que en ce qui concerne mes fondements, ma condition juive et mon existence humaine sont une seule et même réalité. Le juif en moi est un homme et l'homme en moi est juif. Je vous le dis à vous. Ce que je dis à tous les jeunes qui veulent m'entendre, je ne crois pas à la supériorité, quelle qu'elle soit, raciale, ethnique ou religieuse. Je ne crois d'aucune manière que ma religion soit supérieure à la religion chrétienne. Je ne crois pas qu'il existe au monde un peuple supérieur aux autres. Parce que je suis né juif, le judaïsme, la tradition juive, conditionne ma vie. Être juif me permet d'être humain. J'aimerais que vous puissiez en dire autant pour tout ce qui est de votre rapport à votre religion. Et en l'occurrence, la tolérance est le mot-clé. J'aimerais être aussi ouvert que possible à l'islam, au christianisme et à toute autre croyance de tel ou tel, et j'espère sérieusement que je le suis. J'aimerais qu'il en soit de même pour quiconque vis-à-vis de moi. C'est, je pense, terminer par là. Ça veut dire que c'est une humanisation, et peut-être chrétien et juif. Nous croyons dans un Dieu qui croit en l'homme, et que notre engagement, c'est l'humanisation de l'homme au nom même de ce Dieu créateur et libérateur.
Merci beaucoup, Père Barsignini. C'est tellement riche, tout ce que vous nous dites. C'est peut-être souvent, je dis cela aux intervenants, mais je pense que vous particulièrement, chaque phrase, tout ce que vous avez pu dire, il y a de la richesse, il y a du questionnement, il y a, même si on croit savoir les choses, c'est tellement formidable de les entendre, et surtout de les entendre par vous, hommes, mais aussi femmes, parce que je pense qu'il y a une grande, grande féminité en vous, c'est-à-dire dans votre don de vous-même, dans tout ce que vous faites, et surtout cette ouverture d'esprit que vous avez. Merci beaucoup, beaucoup. C'était très riche et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions ou peut-être d'interprétation de ces textes, parce que eux-mêmes les textes sont tellement riches. comme tout à l'heure, je lisais un petit morceau d'interprétation de quelqu'un, du rabbin Haddad, mais il y en a plein d'autres, et vous-même en avez donné. Et puis finir aussi sur Elie Wiesel, avec cet amour de l'autre, finalement, lui qui a vécu l'enfer, comment cet homme a pu garder en lui cet amour du monde et cet amour de l'autre. Et je crois que ce que nous cherchons ici dans l'amitié judéo-chrétienne, effectivement, c'est de nous connaître, d'apprendre à nous aimer les uns les autres, pour aussi aimer les autres dans leurs différences. Alors, homme-femme, vous disiez homme, mais sachant que quand vous parlez de l'homme, vous dites toujours que vous parlez de l'homme et de la femme, puisqu'il y a justement cette proximité dans la différence. Alors, les questions, et qui veut commencer par exprimer quelque chose? C'est toujours difficile, hein, comme ça, de rebondir sur tout ce qui a été dit. Patrick?
Non. Bien.
Oui, j'ai beaucoup aimé cette note d'espoir qui naît au fond de cette relation entre l'homme et la femme. Et l'exemple, vous avez choisi l'exemple de Caïn, et je trouve que c'est une merveilleuse leçon d'espoir, parce que j'ai appris il y a peu de temps qu'en fait nous descendons de Caïn. Pour moi, je pensais qu'on ne descendait que de Seth. Et en relisant la Torah et les commentaires qui y étaient associés, j'ai appris que donc, parmi les enfants de Caïn, il y avait un fameux Lémer qui a eu plusieurs enfants, en particulier donc, vous avez parlé de il y avait Yaval, qui était quelqu'un qui était une sorte de commerçant en fait, un autre qui était musicien, qui faisait de la harpe ou de la lyre, était Yuval, et puis il y avait Tubal-Caïn, qui a été un artisan en fait de fabrication des outils, donc enfin il a fait un peu le départ de l'industrie finalement. Alors il y a le commerce, l'artisanat, l'industrie, et puis une qu'on n'avait pas entendu parler de beaucoup, c'est qui s'appelle Naama, qui était un peu la représentante de tous ces. Donc en fait elle joignait l'agréable à l'utile. Et cette Naama, paraît-il, serait la femme de Noé. Ce qui fait que comme nous descendons tous de Noé, eh bien on est à la fois descendants de Seth et de Caïn. Mais l'histoire de Caïn était quand même assez extraordinaire, parce que finalement c'est un homme donc, qui avait tué, donc qui était voué à disparaître ou chassé et chassé de la terre. En tout cas, au départ c'est un homme qui était agriculteur, et donc pour lui c'était terrible de dire il n'a plus de terre, la terre sera maudite. Donc on a pu l'impression qu'il était chassé de la vie quasiment. Et puis finalement, il est allé vers la ville, et de ville en ville, finalement, il est arrivé à Nod, qui était une ville dite de la fuite, et il a pu avoir ses enfants et faire toute cette industrie, tout ce commerce, etc., finalement, renaître, un petit peu comme les Juifs ont fait finalement quand ils ont perdu leur terre, quand ils étaient chassés de leur pays et qu'ils étaient errants un petit peu dans le monde. Et finalement, ils ont réussi à survivre. Et je trouve que c'est une merveilleuse leçon d'espoir de voir que, malgré ce meurtre, Dieu, quelque part, l'a pardonné, puisqu'il est arrivé quand même à créer une civilisation indirectement par Naama.
Il n'y a pas vraiment de question, c'était plutôt l'histoire de Caïn. Voilà. Ce que vous aviez dit d'ailleurs, et Patrick disait qu'il y avait un espoir extraordinaire dans cette capacité effectivement de rebondissement et de Caïn, et que peut-être la femme de Noé serait une descendante de Caïn.
Oui, ça, on le dit.
On le dit. Alors c'est vrai que ça peut aussi expliquer notre nature, parce que après tout, on porte en nous aussi une part. On va parler de mal, de choses lourdes, de choses difficiles, puisque peut-être que s'il n'y avait pas cette part de mal en l'homme, il n'y aurait pas ces guerres et tout ce qui se vit Alors, est-ce que c'est cette part de Cain dont nous avons hérité peut-être, mais il y a aussi cette transformation possible, puisque le but, justement, dans tout ce que vous disiez, dans l'espoir de l'humanité et du devenir de l'homme, c'est d'être meilleur et d'être à la ressemblance de Dieu, surtout dans le dialogue avec Dieu. C'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, cette idée dans la parole du dialogue que l'on peut avoir avec Dieu. Alors, est-ce que c'est un dialogue intérieur que chacun peut avoir? Est-ce que c'est une révélation? Parce qu'il faut pouvoir ressentir cela, c'est pas simple. Est-ce que simplement la lecture de la Bible peut apporter cela? Voilà une question, par exemple, que je vous pose. Est-ce que la lecture de la Bible telle qu'elle peut être faite selon les degrés, puisque là on est déjà dans un degré où le côté mythique, allégorique, mais nous, dans le judaïsme, il y a 5 degrés, ou là, le pardès, c'est 4, 5, mais qui donne ces 4, qui donne l'idée effectivement de monter vers le sens même caché de la parole de Dieu, donc, et qui nous fait évoluer. Que dites-vous de cela?
Tout à fait, oui. Là, je pense que c'est important ce que vous dites, parce que, bon, je n'ai pas trouvé ça dans la Bible, hein, vous disiez, mais ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il n'y a pas dans la Bible de déterminisme historique. C'est que toute l'histoire dépend de la liberté et de l'homme, de sa responsabilité, de la conversion de l'homme. C'est pour cela que la Bible, pour moi, c'est le livre qui nous dit comment Dieu croit en l'homme et comment il espère en l'homme. Voilà. Alors, comme vous dites, si la femme de Moïse était descendante de Cain, hein, comme vous l'avez dit, hein, c'est pas pareil. Alors. Parce qu'il y a d'autres passages où on montre que les gens se convertissent et qui sont d'une descendance qui n'était pas celle qui était prévue. Hein. Excusez-moi, j'entends mal. Alors.
Lorsqu'effectivement vous posez une question, parlez fort pour que le Père et dans le micro pour que le Père puisse entendre.
Bien, évidemment, merci. On va réfléchir pendant des semaines et des semaines. C'est tellement riche. Je voudrais revenir sur ce passage très important, l'Exode, la libération. Mais s'il y a libération, c'est qu'il y a eu violence, hein, puisque ils étaient à l'état d'esclavage. Et cette libération, c'est de sortir, se libérer de cet esclavage. L'esclavage, c'est une relation, c'est extrêmement violent. Tous les systèmes esclavagistes que nous avons eus sur cette planète. Donc, le processus, je pense, de responsabilisation de liberté, c'est de se dégager de cette violence, primaire, répandu dans toute cette humanité. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce processus de responsabilisation, c'est d'aller vers la paix, vers la non-violence, vers la tolérance, donc s'extraire et de se dégager de cette violence omniprésente dans les relations entre les hommes?
Je ne peux que souscrire, hein, parce que ce qui est premier, c'est la relation de l'homme, et ce qui met en premier lieu, c'est le dialogue. Donc, maintenant, la Bible ne raconte pas l'histoire telle qu'elle devrait être, elle raconte l'histoire telle qu'elle est. Et là, je crois qu'il y avait eu une exposition il y a quelques années, ou 2 ans, la violence dans la Bible. Parce que la Bible ne décrit pas un monde idéal, hein, c'est l'accès de Dieu avec l'homme tel qu'il est et dans les civilisations telles qu'elles sont. Donc, c'est l'histoire de l'homme dans toute sa réalité. Alors pour ça, la Bible, c'est pas là, c'est pas comme certains médecins qui sont très édifiants. Hein. C'est la vie de l'homme dans sa réalité telle qu'elle est et comment Dieu travaille le cœur de cette vie d'homme, hein, de la vie de l'homme. Comme aussi, on peut présenter Dieu dans la Bible violent aussi, hein, parce que ben, on respecte la situation du temps et Dieu accepte d'être vu comme ça par l'homme. Hein. Alors que ça, c'est l'homme qui reproduit un peu en lui son image de Dieu. Hein. La Bible ne vient pas nous dire qui est Dieu. Ce sera à ce moment-là un grand livre de philosophie, etc. Mais il vient de dire comment Dieu vit avec l'homme et comment l'homme vit avec Dieu et comment l'un et l'autre, eh bien, il y a l'appel de Dieu d'un côté, puis de l'autre, l'homme qui voit Dieu de telle ou telle façon. Je pense que la Bible rapporte tout ça. Hein. Oui, vous avez un tas de passages comme ça. Hein. Oui. Donc, c'est pas un livre qui nous dit qui est Dieu à l'état pur, c'est comment Dieu est découvert par l'homme, et comment l'homme se révèle à Dieu, se révèle à l'homme dans des conditions historiques précises. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Je crois qu'il faut l'accepter, ça, sinon nous faisons le livre de la Bible, un beau livre pieux, hein, et non pas un livre d'histoire, de la réalité de l'histoire. Hein. D'ailleurs, les grands personnages de la Bible ne sont pas tous édifiants, loin de là, hein. Ni David, ni Salomon, etc. Hein. Et Dieu continue son projet avec les hommes, non pas tels qu'ils devraient être, mais tels qu'ils sont. Et là, le religieux, en effet, peut devenir violence si le religieux devient idéologique. Hein. Parce que la foi n'est pas de l'idéologie. La foi, c'est la rencontre avec l'homme concret, réel, historique, dans des situations précises où il se trouve. L'idéologie peut construire un monde tel que je voudrais, et le religieux peut être au service de ce monde en sacralisant ce monde que je veux construire. Donc les guerres de religion, c'est toujours des guerres qui deviennent des guerres sacrales. Parce que là, on agit, c'est vrai, c'est au nom du religieux, mais il peut y avoir des sociétés sacrées qui sont des sacrales, qui sont des sociétés athées. Prenez l'ancien empire soviétique, était aussi d'une certaine manière athée, mais une société sacrale. Il fallait être dans tel ou tel type d'homme, sinon vous envoyez dans un goulag refaire votre cerveau. Hein. C'est-à-dire, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que la Bible est une vaste entreprise de désacralisation. Parce que quand on sacralise, on risque de tomber dans ces violences. D'ailleurs, Dieu n'a pas dit qu'il est sacré, Dieu a dit qu'il est saint. C'est pas la même chose. Soyez saints comme vous, comme je suis saint. Et au contraire, si vous prenez la Bible, il y a les prophètes déjà, et Jésus-Christ pour nous, hein, il y a une désacralisation du temple des prophètes. Prenez Jérémie, hein, et Isaïe, devant le peuple qui a peur, les Assyriens arrivent, ils se mettent à jeûner, etc. Hein. Et voilà que, vous vous souvenez du passage, chapitre 58 d'Isaïe, hein, le jeûne que j'aime, c'est délivrer les chaînes injustes. C'est de donner à manger à celui qui a faim, c'est d'habiller celui qui est sans vêtements, c'est... Voilà. Donc, le sacré, il ne faut pas se tromper de sacré. Le sacré, c'est l'homme, pour Dieu. Parce que je m'exprime.
Justement, j'aurais bien voulu rediscuter de ce problème de désacralisation du ciel. Parce que finalement, bon, c'est vrai qu'on devrait les astres, ça c'est C'est pas si important que vous le dire, mais il n'empêche que ça participe à des périodicités, c'est-à-dire qu'on doit quand même respecter la Lune, on doit respecter, il y a des temps, ce qu'on appelle les moabines, qui doivent garder leur importance dans la vie, quoi. Donc, on ne peut pas supprimer totalement le ciel en disant il n'existe plus, il n'est plus sacré. Il y a quand même quelque chose dans la périodicité, des astres, etc., qui reste quand même, qui garde certaines importances, même si on ne veut pas les voir comme des dieux.
En effet, il faut bien qu'on approfondisse qu'est-ce qu'on entend par sacré. Hein? Et en effet, je disais tout à l'heure que la Bible est une vaste entreprise de désacralisation. On a désacralisé le ciel, etc. Donc le sacré, c'est créer des barrières, tandis que la Bible, moi je pense que c'est bien ce qui se révèle dans la Bible, le vrai sacré, c'est l'homme. Ce qui touche Dieu, c'est l'homme. Hein? Vous voyez? D'accord, vous avez par exemple ce passage dans la Bible qui sont des pains de proposition, qui étaient dans ça des saints du temple, c'est les pains sacrés donnés, hein, qui sont là, et puis, d'ailleurs dans l'Évangile, on raconte aussi, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait le peuple qui avait faim, il a pris et il a donné les pains de proposition, qui étaient les pains sacrés du temple. Donc ça veut dire que le sacré qui est en dehors de l'homme et qui ne permet pas à l'homme d'être plus homme, hein, c'est un sacré qui ne construit pas, hein, l'être humain. Oui, c'est ça que je veux dire.
Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi les grandes figures, les grands personnages de la Bible sont essentiellement masculins.
Bon, il est vrai que sociologiquement, le pouvoir civil, militaire, était donné à l'homme. Hein. Quoique, vous avez dans la Bible des grandes figures de femmes aussi. Hein. Vous avez Esther, vous avez Judith, vous avez Ruth, vous avez recherché dans la Bible le nombre de figures de femmes qui ont tenu une grande place dans le peuple. Maintenant, il faut dire aussi que la condition de l'homme et de la femme varie beaucoup avec l'histoire. C'est-à-dire, là, je voudrais dire par là, qu'entre l'homme et la femme, il y a à la fois une attirance très forte, peut-être la plus forte de toutes, puis en même temps, des situations conflictuelles. Hein? C'est ça. Et donc, l'histoire, elle est toujours à faire, hein? Entre les liens hommes et femmes. Je pense que nous sommes tous marqués par ça, hein, par des conditionnements culturels. Y compris dans, moi j'ai pas peur de le dire, dans nos églises. Hein. Il faut marquer tous les réflexes qu'il y a. Hein. Je ne sais pas s'il y a ici des frères anglicans. Vous vous souvenez quand l'église anglicane a ordonné des femmes hommes, des femmes prêtres, pardon. Des femmes prêtres. Il y a des gens de l'église anglicane qui ont quitté cette église, qui ne l'admettaient pas. Je pense qu'on vit des schémas culturels assez grands. Prenez-nous à l'heure actuelle une des grandes discussions, une des grandes nombres dans l'église catholique, c'est le ministère des femmes. Hein? Et là, je ne sais pas, même, il y a beaucoup de femmes qui ne voudraient pas avoir des femmes prêtres. Hein? J'en ai vu autour de moi aussi. Hein? Donc ça veut dire qu'on est très marqué par les vastes choix que là on trouve un terrain de recherche ensemble, hein, pour se construire. Parce qu'il y a à la fois une très grande attirance, attraction, puis en même temps, une différence assez forte, hein, qui fait que prenez maintenant un des problèmes, un des signes des temps, c'est la place de la femme dans la société. Et là, ça nous demande une réflexion assez importante, hein, dans l'évolution que la société est en train de faire. Jean 23 le plaçait comme un des signes des temps. Quand il est arrivé comme pape pontife en 1958, il disait il y a trois signes des temps auxquels il faut être attentif. À l'époque, c'était la décolonisation, les peuples à leur indépendance. Le deuxième disait, on ne croyait pas le mot de colonisation encore, on disait la terre devient un village. Hein. Donc, et le troisième, il disait la place de la femme dans la société, il faudrait être attentif. Donc ça, c'est l'évolution, ça, je pense que là, on n'est pas dans un monde tout fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un monde à devenir et à construire.
Quelques mots simplement, Père. J'ai participé à une émission de télévision le jour de la Journée nationale des femmes avec quatre femmes et c'est, on a débattu tout, pendant une heure de la place de la femme dans la société et il y a un très grand souci à ce sujet dans le milieu féminin. Mais il y a une opposition aussi réelle des politiciens qui voient en ces femmes, probablement, je ne sais pas, je dis une image, c'est une image, une concurrence, si on peut dire, parce que ces femmes le font, soit sont désintéressées, mais les hommes tiennent à garder le pouvoir parce qu'ils se sentent puissants et qu'ils ont en main des leviers qui leur permettent de conserver leur notabilité, voilà, simplement. Et je vous assure que j'ai découvert combien ces femmes prenaient maintenant part à ce combat, non pas forcément pour la parité, mais pour l'égalité homme-femme. Et j'ai entendu ce jour-là Madame le maire de Chambéry, Bernadette Laclais, dire que lorsqu'elle avait été élue députée, elle avait démissionné de ses fonctions de conseillère régionale et que dans son environnement, il y avait encore, je ne sais pas combien d'élus, il y avait 3 ou 4 mandats. Et elle dit, le combat des femmes d'aujourd'hui, ce sera celui d'obtenir l'équité totale et complète. Et c'est vrai que ces messieurs s'opposent en ce sens qu'ils veulent affirmer, comme ils l'ont toujours vécu, et là, pendant des siècles, leur supériorité, mais ils voient en ces femmes qui montent comme une concurrence déloyale. Et ces deux dames, il y avait même le maire de Megève, qui disait qu'elles entendaient quelquefois des remarques très désobligeantes dans certaines rencontres, dans certaines réunions. Donc le combat continue. Et je vais vous poser la question, y a-t-il des femmes diacres? Y a-t-il des femmes diacres, consacrées diacres? Non, il n'y en a pas. Diacres, y a-t-il des femmes diacres? Non, c'est une question qu'on nous a posée ce jour-là, justement. Je saurais y répondre.
Oui, dans le ministère, dans l'Église catholique, alors pour l'instant, il n'y a pas de femmes qui peuvent être ordonnées diacres. Dans les premières communautés chrétiennes, c'est peut-être pas la même chose que maintenant, il y avait des diaconesses, du temps de Saint-Paul.
D'ailleurs, il y a des religieux
de diaconesses. Ah oui, bien sûr. Mais là, c'est pas la même chose, hein. Parce que là, diacre, ça veut dire ordonné, hein. Mais on vient de loin, vous savez, là-dessus, si on regarde simplement depuis 50 ou 60 ans, hein, ça fait pas longtemps que la femme a le droit de vote.
Le Concile Vatican II a apporté quelque chose de mieux pour la femme
Le
Concile Vatican II.
Est-ce que le Concile Vatican II a apporté quelque chose pour la femme?
Non, ils n'ont pas changé beaucoup la femme dans l'Église. Hein. Bon, il y a eu des belles déclarations, d'accord, hein. Si vous voulez, par exemple, si on prend par la suite l'ordination des femmes, Jean-Paul II l'a bloqué entièrement, hein. Et même toute recherche. Hein. Ce qui fait réagir d'ailleurs un certain nombre de femmes maintenant. Hein. Et là, on a posé la question au pape actuel. Il n'a pas osé trop dire les choses maintenant. Hein. Bon, il a simplement dit que, que Jean-Paul II avait bloqué les choses, mais qu'il faudrait faire une théologie de la femme. Je ne sais pas pourquoi il faut faire ça, je ne sais rien. Une théologie de la femme. ça me paraît un peu... Je crois que là, on est encore très marqué par des manières culturelles de voir les choses. Mais vous savez, ça marque la vie, hein, ça. Ça marque les gens d'un certain âge, d'une certaine époque. Hein. Même, prenez l'évolution qui se fait déjà dans la société. Hein. Il y aurait beaucoup à travailler, là, à étudier. Les fonctions dans les familles, comment elles ont changé. Hein. Ça, et l'Église elle-même devra, moi je parle pour l'Église catholique, devra être attentive à cette évolution de la femme. Prenez simplement les tensions qu'il y a à l'heure actuelle entre l'épiscopat américain et les religieuses. Oui. C'est plus des filles soumises comme il y a 50 ans. Hein.
Il serait peut-être intéressant, c'est de faire parler nos amis femmes pasteurs. Non ? Je ne sais pas. Ah. Est-ce que Charlotte a quelque chose à nous dire en tant que femme pasteur ? Justement, femme engagée. Et puis... Oui, non, je crois que chaque communauté, chaque église fait son chemin aussi par rapport à sa culture. Et si on regarde même le ministère féminin dans l'Église protestante unie, il ne date que de 55 ans hein, en arrière. Donc c'est pas non plus... Il y a eu aussi un chemin qui a dû être fait. Voilà, donc... Non, moi après, je vais pas plus loin parce que... Voilà, c'est pas... voilà, je crois qu'on est, on est tous d'accord, mais après, il y a du chemin à faire avec les... Avec, dans les églises, hein, voilà.
J'espère, ce chemin se fera chez nous.
Oui, j'aimerais apporter une petite indication d'ordre historique, justement par rapport au protestantisme. Dans la période terrible qui a suivi la révocation de l'édit de Nantes, avec le départ des pasteurs, la destruction des temples, les communautés ont dû s'organiser, survivre, on va dire, et on sait de façon très précise qu'il y avait un nombre significatif de jeunes filles et de femmes qui ont pris le relais, avec des guillemets, bien sûr, en l'absence des pasteurs. Alors ça peut ouvrir une porte à une réflexion sur le fait que de la place de la femme, je veux dire, presque naturellement, dans une communauté. C'est une indication historique.
Vous remercier comme d'habitude parce que c'est toujours un bonheur, encore plus ce soir je crois, un bonheur de vous écouter. Votre parole, vous avez dit que le texte biblique, la Bible, la Torah, est tellement riche et tellement diverse, vous m'entendez là ? Mais vous-même êtes tellement riche, vos regards sont tellement divers, nous incitent tellement à avoir des regards multiples, divers, des regards de tolérance pour la pensée de l'autre, pour l'interprétation de l'autre. Et puis votre parole est courageuse, vous venez de montrer, nous le montrez chaque fois, mais vous venez de le montrer à l'instant là, courageuse et audacieuse. Puissent certains, les chemins ne mènent pas tous à Rome, peut-être, je pense. Je voulais dire, la richesse a été telle ce soir, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais que vous avez fait chauffer nos esprits, parce qu'à plusieurs reprises, une amie a dû intervenir parce que l'extracteur de fumée se mettait en marche. Donc c'est significatif. Voilà. Vous nous avez invité à ne pas rester enfermés dans notre bocal, et puis surtout à combattre la tentation consistant à vouloir enfermer l'autre dans un bocal et à coller une étiquette dessus. Et puis inviter à transformer l'aridité de nos déserts intérieurs en espace de liberté, en terre féconde, dans un esprit de responsabilité. Excusez-moi. Vous nous avez rappelé que lorsque l'anse, la dent, se réveille, il découvre Ève. Or, Ève, qu'est-ce que c'est? Ève, c'est la vie. Ça veut dire que lorsque nous acceptons de sortir de notre torpeur, de notre sommeil, nous découvrons la vie. Vous avez invité à entrer dans le jardin de Dieu, dans le projet de Dieu, à contribuer à édifier un monde où l'humanité de l'homme, c'est revenu deux fois, s'épanouit, et qui s'épanouit en plénitude. Et puis vous avez rappelé la distinction indispensable entre le sacré, la sacralisation et la sainteté, une distinction sur laquelle Emmanuel Levinas a si fortement insisté. Donc, merci encore. Mais je voudrais, en ce début de saison, je voudrais vous lire un texte pour vous dire combien je suis heureux du thème qui a été choisi cette année. Et combien je suis heureux de rendre hommage aux femmes, à vous, mes sœurs. Ce texte n'est pas de moi, hein. C'est un texte, je suis convaincu que certains d'entre vous, et certaines d'entre vous, je pense à Charlotte, je sais qu'elle le connaît. Donc c'est une histoire lumineuse que j'ai trouvée sur un site juif qui ne figure pas là, mais qui s'appelle Toradox. Il s'agit d'une histoire que nous, les hommes, devrions relire et plus encore écrire chaque matin au lever, tant elle est riche d'enseignements. C'est une histoire qui dit bien où sont les femmes, parce qu'elle raconte ce que sont les femmes. Et ce qu'elles sont parce que Dieu les a créées pour être ce qu'elles sont. Donc cette histoire, c'est un petit garçon qui s'appelle Élie qui demande à sa mère « Mais pourquoi tu pleures si facilement ?» Et elle répond « Mais parce que je suis une femme. Je comprends pas. » Sa mère le serre très fort et lui dit « Mais jamais tu ne réussiras à comprendre. » Alors le petit garçon se tourne vers son père « Mais pourquoi maman elle pleure ?» Et le père, il répond ce que les hommes répondent, y compris moi. Tu sais, les femmes, elles pleurent souvent sans raison. Mais l'enfant, il devient adulte et il s'adresse à Dieu, créateur du monde. Et il lui dit, Hachem, Dieu, pourquoi les femmes pleurent-elles aussi facilement? Et le petit garçon, il entend la réponse suivante. Quand j'ai créé la femme, elle devait être spéciale. J'ai fait ses épaules assez fortes pour porter le poids du monde. Et assez douce pour réconforter ses proches. Je lui ai donné la force de donner la vie. Je lui ai donné la force de continuer quand les autres abandonnent, d'éclairer lorsque le monde s'obscurcit. Et je lui ai donné la force de guider les pas de l'autre quand tout le monde est perdu, mais aussi la force de prendre soin de sa famille en dépit de la maladie, de la fatigue. Je lui ai donné la prière pour se confier à moi. Je lui ai donné une puissance infinie afin de transmettre avec passion et amour la Torah au sein de son propre saint des saints, c'est-à-dire son foyer. Je lui ai donné la sensibilité pour aimer ses enfants d'un amour inconditionnel, même quand ces derniers la blesseront. Et finalement, je lui ai donné des larmes à verser quand elle en ressent le besoin. Tu vois, mon fils, la beauté d'une femme n'est pas dans son statut social. Sa tenue est ni dans la façon de se coiffer ou dans son travail. La beauté d'une femme réside dans ses yeux. C'est la porte d'entrée de son cœur, la place où l'amour réside. Et c'est souvent par ses larmes que tu vois briller son cœur.
c'est magnifique, Norbert. C'est vraiment magnifique. Et c'est un magnifique éloge pour la femme. Mais j'avais la question à poser, justement, vous aviez parlé de la puissance de la femme. Et je crois que là, c'est une réponse incroyable, avec toute l'émotion que Norbert a mis et ressent dans ce que tu viens de lire, hein, Norbert. Oui, c'est très beau. Voulez-vous... Alors Solange, je crois que tu... Il était question il y a un instant du ministère des femmes, mais il me... Donc, il était question il y a un instant du ministère des femmes. Je crois qu'il y a une étape importante avant, c'est permettre aux prêtres de se marier. Dans toutes les religions, que ce soit les orthodoxes, que ce soit les protestants, que ce soit les bouddhistes, que ce soit les juifs, que ce soit tout le monde a une compagne. Et même dans le monde juif, je crois qu'un rabbin qui est veuf ou qui est divorcé ne doit pas rester plus de 2 ans seul. C'est ça, Gérard ? Quelque chose comme ça, hein ? Parce que l'homme ne doit pas rester seul. Et ça, c'est pour moi quelque chose de très important. Je suis habituée, étant orthodoxe, d'avoir des prêtres autour de moi avec leurs épouses, leurs enfants. Je les connais, on se connaît depuis 30 ans et c'est très agréable. Mais aussi, il y a des prêtres qui sont restés célibataires parce qu'ils ont une vie un peu monastique, mais aussi c'est de leur propre volonté. Comme vous savez, je suis célibataire et je suis très heureuse de ne jamais être tombée amoureuse d'un prêtre parce que ma vie aurait été un enfer.
Je crois que c'est une question qui est grand-mère, non, maintenant, c'est pas mal. Alors, d'abord, il faut dire qu'il y a des prêtres catholiques mariés en Orient, qui font partie de l'Église catholique. J'ai célébré un mariage d'un Libanais, lui était Libanais, il avait un cousin prêtre maronite. Mais là-bas, les maronites peuvent être mariés. Donc là, c'est une autre affaire, c'est... Est-ce qu'il faut... Voilà. Pourquoi permettre aux prêtres de se marier? Ben, ça serait une réflexion. Parce que s'il fallait mettre aux prêtres de se marier parce qu'on manque de prêtres, ça serait ennuyeux, hein? Mais bien que ce soit une affaire anthropologique qui touche profondément la personne humaine. Hein? Et ça, c'est vrai, le célibat n'a pas toujours été dans l'Église. Il n'a eu lieu qu'au Concile de Latran en 1200 et quelques. Hein? Donc ça, c'est une autre affaire. Hein? Alors, évidemment, il y a la vocation des moines. Et là, c'est là qu'avec nos frères juifs, on a fait une réflexion à faire. Ça fait déjà longtemps, d'ailleurs, qu'on m'avait demandé à la synagogue qu'on explique pourquoi le célibat. Hein? Et on n'a jamais fait. Hein? Parce qu'on nous dit qu'un rabbin doit être marié, hein? C'est sûr. Hein? Et puis, je me souviens que...
Un jeune homme doit se marier.
Ah oui.
Dans le judaïsme, il est interdit, au-delà d'un certain âge, de rester célibataire.
Ah oui.
C'est pas seulement les rabbins.
Mais un rabbin ne peut pas se faire rabbin s'il n'est pas marié.
Ah oui, faut qu'il soit marié.
Je t'ai pas entendu.
Un rabbin doit être marié, sans ça il ne peut pas être rabbin.
Oui, parce qu'il est un guide, parce que c'est un guide. Il faut qu'il donne l'exemple.
Et voilà, et voilà. Il doit être marié.
Mais c'est vrai que ça sera un échange, d'ailleurs ça rentre dans notre thème, hein, puisque... J'ai fait une rencontre à la synagogue une fois, le rabbin. On discutait du mariage. Et là, j'étais avec un autre prêtre, le père de Norme, qui est un exégète. Et le rabbin disait, la femme est la construction de la vie. Et qu'un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme accompli. Alors avec le père de Norme, on se regardait. Alors après, moi et mon vrai, il faudra expliquer un peu le célibat. Alors, je pense qu'un jour, on en parlera, hein. Quoi qu'ils ont eu, la communauté juive, des rencontres régulières un temps avec les moines de Tamier.
Ah, bon,
bien sûr,
on y allait avec Chanel.
Oui, bien sûr.
On a fait venir les moines de Tamier.
Oui, la synagogue, c'est juste.
Pour la cérémonie de. Du pardon. De...
Voilà, bien sûr, si
c'est vrai. Ils ont prié en hébreu.
Oui, oui.
Mais Jean-Marie qui est décédé depuis au moins.
Et là, on ouvre tout un chapitre. Hein.
Mais bon, c'est pas lui. Alors, je crois que l'Ordoise nous raconter une plus charmante histoire.
Juste, merci. Juste à propos de ce qui vient d'être dit, c'est une histoire que. Raconte Albert Fachler, qui est un intervenant régulier ici, et qui ponctue ses conférences de l'histoire. Ah. Non, mais là, personne ne va être choqué, j'espère. Donc, c'est justement, vous parliez de rencontres entre des prêtres et des rabbins, et il y a eu une rencontre entre des prêtres et des rabbins, et pendant la pause, le prêtre a eu envie de taquiner le rabbin. Parce qu'il y avait une petite pause et le prêtre a sorti son, a déposé son béret, a sorti sa baguette et son saucisson et a dit au rabbin, prendrez bien un peu de saucisson, monsieur le rabbin. Et puis le rabbin offusqué a dit, vous savez bien qu'on ne mange pas de porc. Et le prêtre a dit, je vais mettre de l'autre côté parce que c'est la bonne règle. Voilà. Et le prêtre a dit, ben, vous ne savez pas ce que vous perdez. Bon, la journée s'est passée, et puis quand ils se sont quittés le soir, le rabbin a dit au prêtre, à bientôt, vous donnerez bonjour à votre femme. Et le prêtre s'est retourné. Vous savez bien que les prêtres ne sont pas mariés. Et que lui a répondu, vous ne savez pas ce que vous perdez.
Voilà, c'est une discussion, mais il faut aller beaucoup plus profond. Hein, dans cette chose-là. Parce que dans tout le problème que nous soulevons, c'est, enfin, ça touche bien mais, tous les liens hommes-femmes quoi, dans une société. Hein.
Revenons à des choses plus sérieuses malgré tout. Est-ce qu'il y a encore quelques questions ? Ah, Gérard.
Alors après ce feu d'artifice d'histoire, je ne vous cache pas que j'ai bien envie de vous raconter l'histoire du père Émile, mais je ne le ferai pas. Bien, c'est dommage. Alors j'aimerais bien qu'on revienne à l'histoire du serpent. Vous avez évoqué effectivement les liens qui sont établis entre le serpent et sa postérité, et Ève et sa postérité, le fait d'écraser le serpent au talon. Je me demande si ça ne peut pas nous dire quelque chose de la fonction de la femme. Finalement, le serpent se mord la queue, c'est la circularité, c'est le cercle, c'est un peu l'idolâtrie, c'est le fantasme de l'origine, c'est se croire, croire être sa propre origine. Bon. Si Ève écrase la tête du serpent, elle brise le cercle. Elle empêche, finalement, de se prendre pour sa propre origine. Est-ce que ça n'est pas ce que fait Dieu quand il crée Ève? Adam est plongé dans la torpeur, Adam ne sait pas d'où vient Ève. Il ne sait pas que lui-même est l'origine. Et c'est peut-être une façon de lire peut-être plus positivement une remarque qu'on lit assez souvent négativement. Lorsque Dieu va voir Adam en lui disant « Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé du fruit ?» Adam lui répond « Mais la femme que tu m'as donnée... la femme que tu m'as donnée. » C'est donc que Adam reconnaît qu'il n'est pas lui-même l'origine d'Ève. Alors peut-être que c'est une façon de, effectivement, de définir la fonction de la femme qui serait d'empêcher une espèce de fantasme comme ça de l'origine qui serait une autre forme de l'idolâtrie.
Je ne crois pas que la Bible entre dans les récits, je sais pas, c'est vrai, on peut aller pousser jusqu'au bout là, mais elle n'a pas ce souci-là, quoi, hein, parce que je pense que là, lorsque Adam voit Ève, il va dire, voilà la chair de ma chair et les os de mes os. Hein. Donc, pour qu'il dise ça, comment le sait-il, hein, voilà. Vous voyez, je ne crois pas que la Bible pousse ces questions-là. Le récit n'est pas logique un peu
c'est
en soi.
C'est pour ça que la Bible ne suffit pas.
Hein? Oui. Je crois que les récits ne sont pas logiques en soi. Hein. D'ailleurs, on pourrait se dire aucun, sa femme qui était, c'est je pense que là, on n'est pas dans une logique. Hein. On est dans une. On veut nous faire pénétrer un sens de l'histoire par ces récits. Hein. Ce n'est pas des récits qui vont rechercher l'historicité. Hein. C'est des récits qui éclairent l'histoire, c'est pas la même chose. Hein. Et la Bible, c'est ça. La Bible, c'est pas l'histoire dans le sens tel qu'on l'entend dans l'époque moderne. Parce que dans l'époque moderne, l'histoire, c'est aller jusqu'à la vérification des faits. Hein. Tandis que dans la Bible, ce n'est pas les faits qui sont importants, c'est leur signification. Alors, la Bible, c'est plutôt la signification de l'histoire, hein, que l'authenticité même historique de tous les faits. Hein, parce que ce qui est dit a une grande importance parce qu'il éclaire la situation humaine. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Parce que pour moi, l'histoire d'Israël, c'est une histoire, bien sûr, hein, mais elle n'est pas que l'histoire. L'histoire d'Israël, c'est l'histoire. C'est le fondement de l'histoire, si vous voulez. C'est une méta-histoire, vous savez. Hein. Nous trouvons là, et nous pouvons la lire à toute période, quelles que soient les situations historiques, en référence à l'histoire d'Israël, qui ne nous raconte pas simplement d'une manière claire, c'est ça l'histoire, dans tous les faits précis, mais qui nous dit, voilà, découvrez la signification de l'histoire et de tout. Pour moi, c'est ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais...
Je voudrais peut-être intervenir dans ce que vous dites, et je suis tout à fait, bien sûr, d'accord, mais la lecture que nous faisons de la Bible, et c'est là où je pense où Gérard voudrait dire quelque chose, je ne veux pas le dire à ta place du tout, mais je voudrais au moins signifier cela. Pourquoi le lecteur juif, à travers l'hébreu, va trouver dans un même mot, d'une même racine, des mots différents, dont des interprétations différentes, dont des études qui se sont mises en place à travers justement le Talmud, les Midrashim, la Gemara, le Talmud, etc. Et de toujours pouvoir discuter, à plusieurs d'ailleurs, sur la signification. Peut-être justement pour mieux comprendre encore ce que Dieu a voulu nous dire. Parce que si on lit la Bible sur, simplement d'une façon littérale, ou même si on pense, oui, qu'elle est mythique, mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Donc effectivement, ce que disait Gérard tout à l'heure, c'est une possibilité de comprendre avec derrière encore, peut-être même une façon de voir sous forme de la psychanalyse ou de la psychologie de l'humain, comment on peut réagir à ces paroles, à ces phrases du départ. Et effectivement, les interprétations après, à partir de l'instant où elles ne sont surtout pas figées. On dit que le peuple juif est le peuple de l'interprétation du livre, on dit même qu'il est le peuple de des interprétations. Alors jusqu'où peut-on aller? Mais ben loin, très loin. Et là, je ne voulais pas vous en parler ce soir, mais j'ai encore un autre livre. Mais en fait, c'est vraiment ce soir qu'il faut que je dise pour ce livre. Parce que de Delphine Orviller, femme à rabbin, donc quand même, ce soir, on peut en parler, deuxième femme rabbin de France, il y en a même une troisième, hein. qu'on a bien connue au Guild, elle a été formée au Guild, une petite jeune femme qui est en Angleterre maintenant, donc revenons à Delphine Orbideur, elle a écrit « En tenue d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme ». C'est une merveille facile à lire, mais par exemple, pourquoi là m'est venue l'idée de le prendre ? Parce que rien que pour le mot « davar », qui veut dire la parole, on peut aussi le lire de face de « déver », qui veut dire la peste, et on peut le dire de « dévora », puisqu'on peut jouer avec les lettres, qui veut dire l'abeille. Alors, les trois mots, parole, peste et abeille, qu'est-ce qu'on y voit, nous, comme sens ? Pas grand-chose, il faut réfléchir. Et elle, dans sa réflexion, dit, eh bien, c'est la propagation. Ça veut dire une propagation, mais à des sens complètement différents. C'est extraordinaire. Alors, voilà, je continuerai encore, bien sûr, mais moi, je vous invite à lire ce livre, ne serait-ce parce qu'on parle beaucoup, beaucoup des femmes, du début, de la nudité. Vous allez voir, c'est fantastique sur la nudité, ce qui est dit. Sur le début, sur la Genèse, sur les deux histoires, les deux Adams, l'Adam premier, et bon, on en a parlé ce soir, mais je vous invite à lire ce livre, vraiment.
Et sur le site Academ, oui, voilà, à trouver sur le site Academ un débat entre
elle.
Oui.
Il y a eu sur le site Academ un débat très fort entre elles et un homme juif orthodoxe, Zizek. Gérard Zizek, mais ça ne vaut pas notre Gérard à nous, mais ça, je peux vous dire que c'est intéressant. Donc, entre juifs, comment on peut lire et voir les choses autrement ? Je passe la parole.
Oui, c'était pas vraiment à moi de dire ça, mais il faut que j'éclaire un peu ce que vient de dire Yann. Quand on parle des différentes manières de lire d'avare, on pourrait croire à un jeu de l'esprit, mais pas du tout. Il faut savoir que la Bible a d'abord été écrite qu'avec des consonnes. Il a fallu attendre des maîtres, qu'on appelle les massorètes, et qui ont mis des voyelles. Donc quelque part, ils ont fixé le texte à une époque. Tout le monde reconnaît maintenant que, bon, depuis les massorètes, on lit la Bible à leur manière à eux, mais ça n'empêche pas d'essayer d'imaginer ce que la Bible voulait nous dire quand les voyelles n'avaient pas été fixées, d'où davar, dévér et l'abeille.
Merci pour le côté bien culturel aussi de... Y a-t-il d'autres réflexions, questions ?
Est-ce qu'on peut dire deux mots sur le mariage gay ? C'est possible, ça ?
Peut-être pas. Parce que d'abord, peut-être peut-être une prochaine fois, c'est un gros sujet, il est déjà 10h15, mais une prochaine fois, oui. Enfin, c'est pas trop le sujet là, juste ce soir, mais je pense qu'on pourra. Norbert veut nous dire encore quelque chose.
J'ai eu le webmaster donc, du site de l'église qui va essayer de remettre en service. Ça devrait être fait d'ici la semaine prochaine. Si, dans le milieu de la semaine prochaine, vous n'arrivez pas à vous connecter sur le site, envoyez-moi un mail. Vous avez l'adresse qui figure au bas du tableau. Donc, si vous souhaitez réécouter le père Barcellini, et je me débrouillerai pour placer la conférence à un endroit où je vous enverrai un lien qui permettra de l'écouter. Je pense que Didier, notre webmaster, réussira à réactiver le site.
Merci, Norbert. Alors, tout simplement, à nouveau, nous remercions mais beaucoup, de tout cœur, le père Barcellini pour ce formidable travail, c'est toujours aussi passionnant. Je vous espère aussi nombreux la prochaine fois, donc ce sera le 5 novembre, ce sera une femme, pasteur, elle deviendra notre amie, Isabelle Pierron, qui nous parlera là justement des femmes dans la Bible, donc toujours le mardi 20h, le 5 novembre. Il y a des choses à prendre ici, quelques revues sens, prenez-les, puis vous les rapportez. Et aussi ce livre du Père du Jardin, qui est très très intéressant, que je vous laisse, hein, il est pour vous, peut-être aurez-vous le temps, la personne qui le prendra, de lire...